Aurélien Lignereux, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour ce livre « Napoléon, son histoire par l'infographie » que vous faites paraître aux éditions du Seuil en compagnie de Cyriaque Allard. Aurélien Lignereux, donc vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Grenoble et vous êtes spécialiste de Napoléon. Vous avez produit évidemment plusieurs ouvrages et de très nombreux articles à son sujet autour de Napoléon, l'Empire des Français au Seuil en 2013. La folie Napoléon, qui était l'un des volumes de l'histoire de France en bande dessinée aux éditions de La Découverte. Et vous revenez aujourd'hui avec ce livre autour de Napoléon. Alors, c'est presque devenu une tarte à la crème autour de la question de la bibliographie napoléonienne et de son volume considérable. Dans l'un des textes, vous évoquez le fait qu'on est sur une estimation aujourd'hui au-delà, je crois, de 110 000 titres. Mais justement, vous proposez dans ce livre-là un livre assez spécifique, donc qui vient s'inscrire dans un courant relativement récent en France, qui consiste à faire des histoires par l'infographie, c'est-à-dire on était habitué éventuellement au schéma autour des batailles pour l'histoire bataille, mais là justement l'idée c'est une représentation visuelle de considérations qui peuvent être aussi bien politiques que sociales, qui concernent une période historique. Et cette histoire vous permet aussi, au travers d'une iconographie très riche que vous commentez, de réfléchir sur la question de la représentation de Napoléon au moment même de son pouvoir, mais aussi évidemment tout au courant du 19e. Alors peut-être pour commencer, justement nous dire qu'est-ce qui vous a décidé, vous, à participer à ce projet de faire cette synthèse autour de Napoléon par l'infographie, et essayer de nous dire peut-être quel en est le périmètre à la fois chronologique et l'horizon historiographique.
Très bien, merci. Tout d'abord, je vous remercie pour votre accueil. Pour ce qui est de l'opportunité du projet, en fait, c'est la rencontre entre une maturation historiographique, puisque en tant que chercheur, j'ai eu la chance, en fait, d'assister finalement au long bicentenaire napoléonien qui s'est écoulé de 1999 jusqu'à 2021. Donc là, on est sorti du temps court de la commémoration et des publications de circonstances. Donc c'est un moment favorable, il y en a d'autres, mais celui-ci était assez propice, en fait, à tirer le bilan, en fait, des renouvellements qui ont été en cours à la fois en France et puis en même temps sur le plan international, puisque l'un des grands acquis de cette historiographie napoléonienne nouvelle manière, c'est une internationalisation à la fois des enjeux, du périmètre, des acteurs et puis des collègues. Donc voilà, il y a un temps de mûrissement, en fait, sur l'écriture de l'histoire napoléonienne, qu'est-ce que c'est, et un bilan sur un quart de siècle intéressant à produire. Ensuite, que fait-on de tout cela? Parce que est-ce qu'il s'agit d'écrire le 111e millième livre après tant d'autres, rajouter une page? En fait, on est dans une... avant de se lancer dans ce genre d'entreprise, il y a une crainte qu'on ne doit pas cacher, qui est de synthétiser toujours plus au risque d'appauvrir, monter en généralité au risque de perdre le crin du réel, le détail, l'exemple, la monographie, le contact avec les acteurs, parce que en une année, y a eu 200 livres peut-être qui tournent plus ou moins sur le sujet. Donc comment intégrer ces apports dans une synthèse neuve, sans les diluer, sans les aseptiser, sans les rogner. Et c'est justement les éditions du Seuil qui m'ont fait cette proposition, avec cette collection qui est neuve, qui comptait déjà un volume sur le débarquement, donc avec un autre zoom finalement. Et l'infographie peut apparaître comme une solution idéale un petit peu au dilemme, hein, une synthèse qui un peu risque de crouler, en fait, sous le poids de ses devancières, parce que l'infographie, en fait, elle permet l'infographie, qu'est-ce que c'est, hein, tout simplement, c'est une... Il y a plusieurs manières de la définir, hein, mais si on voit simplement les termes infographie, c'est l'écriture, enfin une manière d'écrire avec le traitement informatique pour donner une représentation visuelle et dynamique des choses. À la fois, ça reprend des outils classiques de représentation éprouvés que l'on utilise depuis longtemps. Donc, on va utiliser des cartes, des diagrammes, des camemberts, tout ce que voilà, toute cette gamme qui a fait ses preuves et qui est toujours nécessaire. Mais on va pouvoir faire preuve d'invention, d'inventivité, proposer d'autres modes de représentation parce qu'il y a un traitement informatisé d'une image que l'on va en quelque sorte presque animer tout en la saisissant. Et ce type de représentation va permettre de faire des jeux d'échelle de manière très naturelle. Par jeu d'échelle, qu'est-ce que je veux dire? C'est à la fois, voilà, il peut avoir cet ouvrage qui se propose d'envisager l'empire napoléonien dans sa plénitude, toute son ampleur, hein, du Portugal hein, jusqu'à la Russie, là où sont allées les troupes françaises. Et puis, de manière très naturelle, on peut zoomer, proposer un éclaircissement, un gros plan sur une décision, tel fait, tel personnage, mais de manière très, très fluide. Très agréable, puisque la collection, elle repose aussi, et ça c'était un point de vue qui m'avait séduit, puisqu'il y a, il peut y avoir plusieurs modèles pour faire vivre l'infographie, et il y a une question en fait d'équilibre entre le texte et l'image, voilà, qui a été médité et bien pensé. Je pense que là, avec ce format, on arrive vraiment à mettre en rapport un texte qui permet en fait de développer un discours en profondeur, mais en le dynamisant, en le stimulant, en le provoquant, en le complétant par ces représentations un peu imagées de choses que l'on n'a pas toujours l'habitude de mettre en image, de mettre en valeur lorsqu'en fait de l'histoire napoléonienne. Parce que l'histoire napoléonienne, elle a ceci de particulier, c'est une histoire qui a son public, c'est une histoire qui doit sa vitalité à un public d'amateurs éclairés, très, très, très savant sur un grand nombre de sujets. C'est une histoire en fait qui s'est beaucoup développée aussi en dehors des cadres strictement universitaires. Donc il y a ses traditions, il y a ces chevals de bataille, hein, ces domaines d'excellence, et notamment, c'est un secret pour personne, l'histoire napoléonienne, c'est une histoire hein, qui est en pointe, évidemment, pour l'histoire militaire. Et notamment ce que l'on appelait l'histoire bataille. L'histoire bataille, aujourd'hui, on en parle avec
une petite distance,
voilà. Une petite distance, parce que, vous voyez, c'est une histoire un peu wargame, avec... un genre d'histoire dans lequel l'historien est un petit peu en surplomb, comme un stratège, et il refait le match et il voit se mouvoir les unités qui se déplacent sur un champ de bataille, un petit peu un champ de bataille idéal. Alors ça fait depuis Tolstoï qu'on combat un peu cette vision voilà, désincarnée de parler de la guerre. Il n'en demeure pas moins que voilà, l'histoire napoléonienne s'est beaucoup construite dans cette perspective, a produit des travaux d'une rare précision, beaucoup de très méticuleux, très précis pour suivre le déploiement des divisions, le ballet des troupes, etc. Et donc cette historiographie napoléonienne avait déjà en fait cette expérience de la représentation figurée. Cette représentation figurée, mais qui était cantonnée à l'histoire militaire et qui, dans certains cas, pouvait même s'auto-caricaturer en quelque sorte. Et donc là, l'idée, c'est d'utiliser finalement ces méthodes qui ont fait leur preuve, mais qui pouvaient parfois donner l'impression de tourner en rond à d'autres sujets. Tout est aussi essentiel, ne serait-ce que pour comprendre comment fonctionne la machine de guerre napoléonienne. Donc se tourner sur l'économique, le politique, le social, en utilisant voilà, ces supports imagés pour les faire vivre aussi.
Est-ce que justement, vous parmi les différents domaines que vous évoquez là, il y a un sujet particulièrement où vous avez senti véritablement l'apport de cette représentation imagée? Est-ce que vous dites, ah oui, typiquement pour la structuration du pouvoir politique, par exemple, ou autre, c'est vraiment utile d'avoir cet effet de synthèse-là par l'image.
Oui. Prenons l'exemple de l'histoire de l'État, l'histoire de l'État napoléonien. Parce que la manière dont on a écrit l'histoire napoléonienne, donc voilà, il y a ce terrain d'excellence qui est le domaine militaire, mais il y avait aussi une autre tradition qui reposait finalement sur Napoléon, créateur, fondateur de la France contemporaine, avec un certain nombre d'institutions qui ont résisté à l'épreuve des siècles et que l'on envisageait un petit peu comme des masses de granit, selon l'expression consacrée, et pour lesquelles on pouvait avoir une approche qui était très descriptive, un peu lisse, pour tout dire, très institutionnelle, qui manquait finalement un petit peu de nerfs, d'énergie et de dynamique. Et donc, s'intéresser à l'histoire de l'État en ayant avec soi, en fait, toute la batterie des outils de l'infographie, ça va permettre de donner corps à cette histoire de l'État presque au sens propre et avec plusieurs types de représentations. Donner corps, par exemple, c'est essayer de comprendre, de figurer la composition des administrations, voir les gens, les survivants d'Ancien Régime qui se sont réintégrés dans les institutions napoléoniennes, les nouveaux venus, les outsiders, les vainqueurs de la Révolution qui se sont installés, et puis des générations montantes d'individus. Et donc, quand on voit une population, par exemple des préfets ou des auditeurs au Conseil d'État, avec l'infographique, il suffit de découper des silhouettes, de les colorer en fonction de leurs antécédents, et tout de suite ça prend forme. On voit que ce qu'est finalement la synthèse napoléonienne, un État post-révolutionnaire qui doit réconcilier la France et faire, c'était le projet de Napoléon, faire avec les talents disponibles, les compétences éprouvées, et donc ce compromis napoléonien, on le voit jamais aussi bien que dans les hommes qu'il compose. Ça, c'est une chose. Autre type de représentation graphique qui permet de comprendre comment ça marche, c'est de prendre vraiment une étude de cas qui peut apparaître très pointue. Hein, on va prendre l'exemple du canal de l'Ourcq. Le canal de l'Ourcq, hein, Paris a besoin d'eau. Paris est une ville qui a soif, une ville dont les enjeux liés à l'hygiène, etc., sont extrêmement dépendants de la question de l'eau. Hein, mais voilà, bon, on imagine, voilà, c'est pas que des problématiques actuelles. Et donc, il y avait des projets depuis l'Ancien Régime, plus ou moins avec des temporalités anciennes, qui espéraient arriver à faire dériver le cours de telle rivière pour alimenter Paris en eau, et puis aussi avec tous les avantages d'un canal pour la circulation des marchandises, des engorgés. Bon, voilà. Il y a des enjeux qui sont des enjeux d'histoire économique et sociale qui sont liés vraiment au fonctionnement de la ville comme organisme. Et ces choses-là, elles peuvent être connues. On sait que Napoléon prend une décision. Mais ce qui est passionnant, c'est de suivre en fait le processus de décision, parce qu'il ne suffit pas de dire que Napoléon, voilà, il arrive avec un temps impérieux, il a l'autorité, il a de la suite dans les idées, il voit clair, il compte bien, c'est bien, mais ça, c'est des qualités générales. Et donc, vraiment prendre le pari de se dire, bon, il y a ce projet qui est dans les cartons de l'Ancien Régime depuis longtemps, la Révolution française. L'a repris, l'a attribué à telle ou telle compagnie, puis ça se fait pas parce qu'il y a des incertitudes politiques, des rivalités, etc. Comment se fait-il que sous l'administration napoléonienne, les choses prennent corps. Hein, les choses prennent corps, et c'est là qu'il faut être attentif, il faut pas céder à l'espèce de magie de Napoléon, du prestige, avec lui, l'ordre s'installe et tout va bien. Il faut disséquer la décision, comprendre comment Napoléon s'appuie sur une institution, les ponts et chaussées, mais en même temps, il favorise au sein des ponts et chaussées tel ingénieur à l'encontre du conseil d'administration des ponts et chaussées, il porte tel projet Parce qu'il y a des projets que voilà, les ingénieurs arrivent avec leurs plans, leurs devis, et Napoléon veut pas seulement quelque chose qui soit fonctionnel, mais aussi quelque chose qui soit grandiose, qui puisse servir sa propagande, puisque rien n'est gratuit finalement dans cet état napoléonien. Et donc, vous voyez, il y a toute une série d'enjeux qui sont liés aussi à l'ouverture des horizons. Maintenant, la Belgique est française. Donc, il y a vraiment la question de l'élargissement par un canal par le nord hein, qui se pose avec d'autant plus d'acuité. Là, quand je vous dis ça, ça commence à faire, si j'étais transcrit, ça commence à faire 2-3 pages. Mais parvenir avec un ruban qui voit les différentes étapes se déployer, on voit le fonctionnement de l'État napoléonien, on le saisit un petit peu sur le vif. Donc ça, c'est le fonctionnement de l'État dans ses hommes, et puis dans la volonté, comment la volonté se traduit en acte à travers un paysage institutionnel.
Alors justement, vous évoquez plusieurs reprises la question de l'État. Le premier chapitre de votre livre, c'est justement « Prendre l'État », c'est-à-dire c'est évidemment le 18 Brumaire, en montrant, et ce que vous évoquez un peu là, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est ce qui raconte le parcours napoléonien de façon un peu systématique, il y a globalement, il y a un projet, il y a une volonté, et puis il y a les circonstances, et c'est l'articulation entre les deux qui produit des fois des réussites et puis parfois des échecs. Mais que, comme vous dites, c'est pas le légendaire qui veut que toute volonté soit réalisée, quelles que soient les circonstances. Et puis, on s'appuie sur des individualités. Et de ce point de vue-là, le 18-19 Brumaire, parce que le fait que ce soit sur 2 jours est évidemment une question importante, est tout à fait exemplaire.
Oui, alors, et ça rejoint à la question par où commencer la période napoléonienne. Il faut pas se dérober et prendre par le coup d'État, le coup d'éclat inaugural, celui donc du coup d'État des 18 et 19 Brumaire, puisque l'essentiel, les scènes qui sont gravées dans la mémoire collective, hein, ce sont des scènes hein, du 19 Brumaire à Saint-Cloud, le lendemain d'un coup d'État qui était pensé sur 2 jours, de manière à coller le mieux possible au cheminement légal, mais qui crée un point faible, puisque en 2 jours, eh bien, le lendemain, les républicains avertis, inquiets des manigances de la veille, pouvaient s'organiser. Là encore, l'infographie apporte quelque chose en plus. Parce que vous imaginez, vous le savez, sans doute le nombre de livres qui ont été écrits sur les 18 Brumaire, hein, une journée qui a fait la France, ou qui a mis fin à la Révolution, ou qui... Voilà, il y a une très belle bibliographie. Et à partir d'un moment, on arrive à avoir de l'événement un déroulé presque minute par minute. Très franchement, on est à ce niveau de précision, à ce précision-là. Encore que, il y a beaucoup de témoignages rétrospectifs, des mémoires. Enfin, c'est la période napoléonienne. Hein. Les grands acteurs ont parlé avec en différé. Ça complique un petit peu les choses. Donc, on a à la fois un séquençage chronologique très précis, et puis, grâce en fait à tout ce capital bibliographique, tous ces livres sur la question, eh bien, on connaît très bien les acteurs. Les acteurs secondaires, principaux, et puis même les figurants, les comparses, etc. Et on est en mesure de les catégoriser, hein, de savoir, avant le déclenchement du coup d'État, qui était de mèche, qui était au courant, qui était voilà, complice actif, qui était au courant mais en laissé faire, qui avait été consulté mais avait dit non. Donc l'infographie va permettre en fait d'identifier dans tous les cercles du pouvoir, les cercles du pouvoir du directoire, le régime qui a été renversé, de voir parmi les assemblées, parmi les anciens, parmi les 500, parmi les directeurs, parmi aussi les institutions intellectuelles qui ont un rôle très important sous le directoire, et bien de voir l'équilibre des forces. Et c'est là qu'il y a toujours l'étonnement, puisque... le coup était presque sûr de réussir, puisque le verre était dans le fruit. En tout cas, c'est presque une révolution de palais. La plupart une partie des conjurés détenaient en fait des positions clés dans les institutions. Et puis, malgré tout, c'est un événement, parce que c'est un événement dans la mesure où il y a de l'imprévu. Il y a un grain de sable, des retards, de l'énervement, et puis Napoléon Bonaparte qui veut jouer un rôle à sa mesure et non pas être le simple sabre qui devait couvrir l'opération. Donc Napoléon est impatient. Napoléon, voilà, est impérieux. Il n'a pas le langage parlementaire, c'est une question de code, d'usage, et donc il prend des risques. Ces risques peuvent lui coûter très cher, mais finalement ça lui rapporte gros, puisque le dérapage de la manœuvre parlementaire qui vire en coup d'état militaire le 19 Brumaire, eh bien, puisqu'elle réussit, il y a un vainqueur, et ce vainqueur, ce n'est pas Bonaparte parmi d'autres vainqueurs, c'est d'abord et avant tout Bonaparte. Mmh. Et ça, voilà, en utilisant les ressources de l'infographie, comprendre un petit peu la disposition des salles à Saint-Cloud, voir les rapports de force antérieurs, on arrive, je pense, à le saisir de manière efficace, en deux, trois pages, comprendre vraiment les tenants et aboutissants du coup d'État et qui lance les choses, parce qu'une fois que le coup d'État, il va déboucher sur un certain type de rapport de force, d'emblée, il disqualifie celui qui croyait remporter la mise, c'est yes, ben voilà, c'est la tête pensante, l'esprit bien fait, constitutionnaliste, ben qui avait ouvert la révolution en 1789 par qu'est-ce que le tiers-État, et on comprend tout de suite dans la manière dont s'organise le coup d'État, comment il est supplanté parce qu'on est passé à autre chose.
Oui, on est passé à autre chose en même temps, et ça, vous y revenez à ce moment-là, et puis on l'évoquera tout à l'heure au moment de la mise en place de l'Empire, ce rapport toujours très ambivalent à la question de la légalité. C'est-à-dire que, de façon constante, il y a à la fois la volonté, on va dire, de forcer le destin, si on peut dire les choses comme ça, pour que ce qui est souhaité advienne, essentiellement par Bonaparte, Napoléon, mais il faut toujours que les choses soient élaires. Mais ce n'est pas simplement une question de pure apparence, hein. Il y a une volonté d'inscrire systématiquement l'ensemble des actes dans une logique de légalité. Est-ce que ça, c'est une volonté, c'est un héritage de la Révolution, si l'on veut? C'est montrer que ce n'est pas un régime de l'arbitraire, que c'est différent d'une logique purement de droit divin monarchique. Qu'est-ce qui, pour vous, motive cette logique-là en permanence chez Napoléon ou son entourage?
Oui, c'est très juste, et il faut vraiment s'affronter à cette question, parce que y a plusieurs caricatures qui sont à déraciner. La première, c'est celle d'une révolution qui ne serait que désordre, violence. Alors, il y a des désordres, il y a des violences, il y a des troubles, bien évidemment. Mais la révolution, elle essaie de construire un ordre nouveau par la loi. Il y a une obsession de la loi, il y a une production de la loi, il y a une attention portée à la loi et à la fabrique de la loi qui est constante. Ça, c'est vraiment le grand projet de la Révolution, c'est de construire un nouvel ordre par la loi. Et Napoléon Bonaparte, hein, et tous ceux qui arrivent au pouvoir avec lui, par lui, malgré... Voilà, ils sont dans cet ordre des choses. Parce que le grand projet napoléonien, et ça, c'est une deuxième caricature dont il faut se déprendre, une caricature qui d'ailleurs a été en fait construite par la légende noire, par les caricatures anglaises, enfin, qui ont campé Napoléon, une espèce de despote oriental, voilà, avec des décisions arbitraires, colériques, impulsives. Non, le projet, c'est vraiment de construire, hein, l'empire des lois, l'empire des codes, et c'est un peu le paradoxe. Parce que les racines, la notion aujourd'hui est discutée, etc., mais malgré tout, les racines d'un état de droit, elles se construisent, voilà, les fondements sont sous la Révolution, et ils sont consolidés sous l'Empire, en dépit d'un certain nombre d'empiétements qui rendent justement... C'est en cela que cela pose problème. Donc oui, pour Napoléon, il faut construire, hein, par la loi. Et par la loi, ça ne se limite pas au grand code, hein, ces monuments très solides comme le code civil, le code pénal, hein, et les quelques autres codes de commerce, hein, les quelques autres grands codes qui sont adoptés par Napoléon. Il reste une activité législative. Alors compliqué dans un système où Le pouvoir législatif a été très affaibli. Il a été tronçonné entre plusieurs assemblées. Hein. Vous devez vous souvenir que c'est quand même voilà, la constitution du consulat elle est quand même arrivée à inventer un système où il y a deux assemblées. Une assemblée dans laquelle les tribuns délibèrent mais ne votent pas, et un corps législatif au sein duquel les députés votent mais sans parler. Voilà, il y a un partage des rôles qui, bon, voilà, c'est quand même très cadenassé. Mais il y a le Conseil d'État, hein, il y a le Conseil d'État qui aide, appuie la rédaction des lois qui sont à l'initiative hein, du chef de l'État. Et là, il y a un travail au Conseil d'État bah, de, voilà, de maturation, de rédaction, de formulation des lois hein, qui a toute son importance. Et puis, les lois, c'est une chose, mais encore faut-il qu'elles soient appliquées. Donc, il faut de l'autorité, il faut des agents pour les faire respecter. Et puis aussi, il faut qu'elles soient comprises de manière, de la même manière par chacun. Hein. Et durant la période napoléonienne, les ministères, hein, et en particulier le ministère de l'Intérieur, hein, écrit un très grand nombre de circulaires. Hein, quelque chose comme 130 circulaires par an pour expliciter auprès des préfets, notamment, la manière dont ils doivent interpréter la loi. Hein, pour que cette France, qui est tout de même une France qui va s'étendre jusqu'à 130 départements, ben voilà, on soit sûr que la loi soit appliquée. Et pour que la loi soit appliquée, ça veut dire qu'elle soit comprise, non seulement connue, hein, mais comprise. Pour que, bah, que tout le grand corps de l'État avance d'un même mouvement.
Est-ce que pour vous, il y a une... Enfin, vous l'évoquez dans le livre, mais dans justement le rapport compliqué d'héritage à la Révolution, il y a ce désir paradoxal à la fois de l'égalité et enfin, de, en un seul mot, et en même temps de dépolitiser la société qui est en fait depuis 10 ans... dans un roulement continu de passion politique, enfin, c'est une interprétation qu'on peut en donner, et que justement, si on veut avancer, il faut sortir de ça, et pour ça, il faut dépolitiser la société. Et quels en sont les leviers de cette dépolitisation?
Oui, ça, c'est le... C'est pas simplement une intuition que l'on pourrait avoir a posteriori, une interprétation historienne. Ce souci de dépolitisation, c'est quelque chose qui est pensé, qui est formulé, qui fait l'objet de circulaires du ministère de l'Intérieur, notamment auprès des préfets, en expliquant qu'il faut ramener le calme dans les esprits. Il faut en quelque sorte arriver à faire redescendre la pression d'une France qui a été mise en dessous pendant 10 ans et durant laquelle les passions adverses hein, se sont affrontées. Il y a un souci de dépolitisation qui est profond. Alors cela passe en fait par plusieurs niveaux. Il y a un sens immédiat, un sens qui est même qui relève de l'ordre public. Napoléon propose un programme qui se veut le plus fédérateur possible, sous les dehors du national en fait. Ça va être l'essence du bonapartisme, hein, gens de bonne volonté, honnêtes gens, de droite, de gauche, hein, rejoignez-nous pour la grandeur nationale, la bonne marche de l'État. Donc toutes les bonnes volontés, toutes les compétences hein, sont bonnes à prendre. Et on oublie tout, ou presque. Hein. C'est ce qui explique que voilà, d'anciens terroristes peuvent côtoyer hein, d'anciens émigrés et travailler de concert pour ça. Il n'y a pas eu besoin d'amnistie. C'est voilà la manière dont on a coagulé les hommes au sein des institutions avec l'autorité napoléonienne hein, qui permet de stabiliser ça. Ceux qui ne jouent pas le jeu ou ceux qui ne veulent pas se rallier ou qu'ils le font de très mauvaise grâce en montrant les dents et voilà, sans ranger l'épée au fourreau, ils subissent une forme d'ostracisme social et des persécutions policières. Parce que ils sont perçus comme extrêmes. Il y a tout un discours sous le consulat sur l'extrémisme et le fanatisme politique, c'est-à-dire les irréductibles, ceux qui n'ont pas compris l'axiome de base que la révolution est finie. Pour Napoléon, la révolution est finie, ça veut dire qu'elle est faite, elle est belle et bien faite. Il ne s'agit pas de la poursuivre, parce qu'elle a accompli ce qu'elle devait accomplir. Mais il ne s'agit en aucun cas de revenir sur ses acquis. Et donc ceux qui seraient nostalgiques d'avant 1789 ou qui estiment que les promesses de la Révolution ne sont pas encore tenues, que la Révolution est une dynamique, est un mouvement, qu'elle ne doit pas se borner aux politiques, mais qu'elle est aussi sociale, culturelle, etc., ceux-ci sont rejetés en dehors d'un espace public de plus en plus sous contrôle et sont perçus comme des dangers publics, comme des ennemis publics. Alors la manière de les mettre à l'écart varie selon qu'on est la frange radicale, révolutionnaire, ou la frange contre-révolutionnaire, mais il y a cet évincement. Dépolitisation, donc il s'agit de créer un centre très large autour de valeurs qui s'autoproclament consensuelles, mais qui, ma foi, sont globalement acceptées en l'état, en marginalisant les marges. Mais c'est aussi, plus largement, un souci de rendre aux individus, de les rendre à une forme de normalité, de les rendre au quotidien des jours, de les rendre en fait à leurs affaires, à leurs soucis domestiques, Napoléon estime, et derrière lui, il n'est pas seul, il y a des éminences grises, par exemple un Beugnot ou d'autres, qui estiment que voilà, il faut arriver à un calme, c'est formulé presque de la sorte, à un calme plat politique, de manière à pouvoir rendre au pays une grande activité à l'intérieur, que les affaires reprennent en quelque sorte. Et pour cela, on ne peut pas s'investir passionnément dans les affaires de la cité. Et en cela, c'est un peu paradoxal, puisque vous savez, quand Napoléon tombe en 1814, Benjamin Constant réfléchit sur la liberté des modernes et des anciens. Mais finalement, dès le consulat, cette idée que la liberté chez les anciens, chez les Grecs, chez les Romains, c'était l'investissement du citoyen dans les affaires publiques, ce surinvestissement. Et Benjamin Constant estimait que c'était dangereux et que la liberté des modernes, celle du 19e siècle, c'est que chacun puisse avoir son bonheur intérieur et son bonheur privé, ses bonheurs économiques, etc. Les choses sont posées pour l'essentiel sur le consulat et l'empire, à une exception notable, mais plus que notable, qui est la guerre, qui est la guerre et qui fait que dans la formule napoléonienne, pour arriver à la dépolitisation du pays et donc à la pacification des esprits et donc à la fin des guerres civiles ouvertes ou larvées en France, il y a aussi l'usage de la guerre comme un dérivatif pour que la violence qui consumait les Français entre eux, la violence fratricide, elle s'exporte. C'est aussi une autre manière, un autre outil qui a permis cette pacification au prix d'un cycle de guerre.
Au prix d'un cycle de guerre, et ce qui est intéressant, même si évidemment on y reviendra, c'est que ce que vous notez aussi, c'est que globalement, les différentes levées d'hommes qui ont lieu jusqu'à la fin, jusqu'en 1812, globalement, ne font pas l'objet, mis à part des cas individuels, de résistance massive. C'est-à-dire que le cycle de guerre, il y a quand même une adhésion, si ce n'est une adhésion, en tout cas une obéissance, c'est un grand, nuance importante à apporter et qui va quasiment durer jusqu'à la fin du régime. Et ça, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Donc, cet effet dérivatif, il fonctionne jusqu'à un certain point.
Oui. Parce que là encore, Napoléon, il vient après la Révolution. La Révolution, elle a expérimenté différentes formules. Elle s'y est brûlée les doigts. Les bataillantes volontaires, donc l'enthousiasme de 1791, de 1792, en fait, les bonnes volontés patriotes, hein, ce sera les armées de les soldats de l'an 2 avec l'amalgame, etc. Mais la Révolution a dû aussi, pour aligner 1 million d'hommes face à l'Europe, hein, elle a dû avoir recours à des réquisitions, à la levée des 300 000 hommes. Et c'est au moment de la Révolution que les violences contre la prédation d'hommes par l'État a été les plus violentes. Hein, la guerre de Vendée et plus largement les soulèvements de mars 1793, hein, bah, c'est lié au rejet d'un État terriblement plus gourmand que la milice d'ancien régime. Et c'est sous la Révolution que l'on a inventé en 1798 la conscription. Hein, tout Français est soldat, se doit à sa patrie. Donc les bases, en fait, ont été posées. Et, j'allais dire, hein, les premiers faux pas ont été faits, parce qu'en 1798, enfin en 1799, le taux d'insoumis, c'est-à-dire des jeunes gens qui refusent de se présenter au régiment, c'est des taux de 40-50% qui sont considérables. Et donc finalement, Napoléon, il n'arrive pas comme ce qui est souvent la cause de l'impopularité chez un chef d'État. C'était vrai dans la France d'Ancien Régime, c'est les nouveautés, les innovations dangereuses, etc. Finalement, Napoléon n'invente rien. Il a un système conscriptionnel qu'il va utiliser, qu'il va perfectionner, qu'il va pousser jusqu'à la corde. Mais il ne déstabilise pas, enfin voilà, il n'en est pas l'inventeur. Il va perfectionner le système et on note d'année en année une forme en fait d'amélioration du rendement de la conscription, une diminution du nombre d'insoumis et même du nombre, parce que tous les insoumis, ben voilà, qu'est-ce que veut faire un insoumis en fait? Il veut être discret, se cacher, etc. Parfois ils sont repérés par les gendarmes, donc il y a des rébellions, etc. Mais au fil des années, ces mauvais chiffres, ceux de l'insoumission, ceux de la conscription, tendent à diminuer, alors même que, palier par palier, mais de manière assez progressive, on demande davantage au corps social. C'est-à-dire que, grosso modo, la conscription dans les belles années de l'Empire, on demande un jeune homme sur trois, hein, pas plus. Un jeune homme sur trois, et il y a un certain nombre de, j'allais dire, d'adoucisseurs sociaux, de freins, d'amortisseurs qui permettent d'en tempérer le coût social, notamment le remplacement. Pour avoir le consentement des élites, bah, il faut qu'il y ait des échappatoires, c'est-à-dire acheter un homme. Alors vous allez me dire, bah, ça crée une forme d'injustice. Oui, évidemment, mais les deux parties, ils trouvent leur compte finalement. Le notable qui achète un homme pour son fils qui ne va pas à l'armée, qui va pouvoir continuer ses études, succéder à son père, etc. Évidemment, les bénéfices, hein, ils sont éclatants. Et pour le rang, celui qui se porte remplaçant, bah, il a quelques milliers de francs qui permettront en fait un capital, voilà, pour en cas de retour ou pour les proches. Bon, voilà, il y a en tout cas ces formes de transactions sociales, sauf que les choses vont dégénérer en fait en deux étapes. À partir de 1808-1809, avec la guerre d'Espagne, on monte toujours un petit peu, on grignote, on demande un peu plus d'hommes, et la guerre devient impopulaire. On en reviendra peut-être, mais bien sûr, l'information est très contrôlée, la presse est très aseptisée, et malgré tout, les nouvelles, les mauvaises nouvelles, elles transpirent, elles franchissent les Pyrénées. Et puis il y a des morts, il y a des gens qui reviennent pas, ça se sait, et donc voilà, il commence à y avoir, hein, au sein du pays, une forme d'inquiétude. Et puis quand il faut remplacer l'armée qui a disparu, quasiment disparu en Russie, eh bien le Sénat va être forcé en 1813 de multiplier 5 levées. Et en faisant ces 5 levées, le Sénat en fait va piétiner les garde-fous, les garanties sur lesquelles la société croyait pouvoir s'appuyer, notamment en rappelant des hommes qui avaient été libérés. Hein, vous imaginez, normalement, vous êtes libéré du service, bah, vous êtes marié, etc. Et puis, bah, non, les règles du jeu changent. Et là, ça pose problème. Donc, il y a une transgression. On va rappeler des gens qui étaient libérés. Et autre transgression, dans les très mauvaises années, en fait, au début de fin 1813, début 1814, là, on va devoir appeler des jeunes gens en dessous de la 21e année. Ben, ce sont ceux que la mémoire va retenir hein, sous le terme de Marie-Louise. Et là, il y a une transgression parce que c'est ce qui va nourrir le thème de l'ogre qui dévore les enfants. Voilà. Et donc, conclusion, elle s'impose d'elle-même, en fait. Il y avait cet outil qui était en voie d'acclimatation. Mais à force de trop tirer dessus, c'est devenu très impopulaire. Et à tel point que Napoléon, au retour de l'île d'Elbe, pendant les 100 jours, n'a pas les moyens politiques de rétablir la conscription. Parce que, bon, il rentre dans des circonstances qui sont déjà délicates. Et même Napoléon, même face à une Europe qui restait sur le pied de guerre, et qui le menace directement, on ne peut pas relancer la conscription parce qu'elle a laissé des souvenirs cuisants.
Alors, justement, vous évoquez cette question de la guerre comme dérivatif, cette question de la guerre autour de la question de la conscription. Alors, c'est à la fois une question immense, mais vraisemblablement importante. C'est que, justement, ce cycle guerrier, quasiment ininterrompu de 15 ans, il est consubstantiel du système napoléonien pour des raisons, on peut dire, économiques, puisque l'une des grandes logiques de la conquête napoléonienne, c'est justement la prédation, si l'on veut, d'une façon ou d'une autre, en tout cas, le fait de se payer sur le pays qu'on occupe. C'est un dérivatif politique, puisque c'est une façon d'injecter par le nationalisme les passions françaises. C'est une instabilité, si on psychologise trop le personnage de Napoléon, qu'il faut toujours qu'il soit en mouvement. Je sais que c'est pas votre goût, cette psychologisation. Si on fait raisonnablement l'histoire contrefactuelle, c'est-à-dire que est-ce qu'il aurait pu en être autrement, ou est-ce que c'était lié à la structure même de la forme qu'il avait donnée à l'État, cette logique de guerre continue? Est-ce que c'est cette obsession du blocus et de l'Angleterre qui finit par créer la guerre, ou est-ce que c'est une question qui est trop vaste pour être répondue en si peu de temps?
En tout cas, c'est une question essentielle, et puis la manière dont vous l'avez formulée, là, ouais, elle la rend d'autant plus saisissante. Mais en fait, voilà, ça fait 230 ans qu'on se dispute là-dessus, l'origine des guerres napoléoniennes. Et donc, en fait, chaque génération a pu apporter ses réponses, et puis il y a aussi des effets de relecture. Il y a tout de même. Dans le système napoléonien, il y a quand même quelques éléments assez certains, stables, qui penchent pour un ordre pacifié, mais dans lequel l'hégémonie française, la prépondérance française, serait incontestable. La paix à ce prix-là, à ce goût-là, va très bien à Napoléon, hein, du moment que la supériorité française n'est pas remise en cause, c'est très bien. Et donc, Napoléon est un homme de paix. Il le clame, et je crois qu'il le croit lui-même, mais dans son souci, la question de la paix perpétuelle, c'est des questions qui ont traversé le 18e siècle, la condamnation des guerres de conquête, des guerres dynastiques, il y a cet héritage, et Napoléon a beaucoup lu, beaucoup réfléchi, il a un sens des logiques diplomatiques, des rapports de force. Et en fait, Napoléon pense que l'origine des guerres, dans la longue durée, elle tient à l'existence de petits États intermédiaires, qui sont le résultat en fait des accidents de la construction de des États en Europe, et qui fait que quand on voit une carte des champs de bataille ou des sièges pendant du 16e au 18e siècle, bah voilà, il y a une concentration de batailles en Belgique ou dans l'Italie du Nord ou sur la vallée du Rhin. Voilà, parce qu'il y a des forces profondes. Il y a la maison d'Autriche contre la maison de France qui se sont affrontées, les ingérences anglaises, qui fait que chaque génération se bat à nouveau pour des raisons plus ou moins semblables et dans les mêmes lieux. Donc l'idée de Napoléon est assez simple, hein, c'est il y a ces États qui aimantent l'énergie des plus gros. Et tant qu'ils sont dans cette situation un peu instable, d'État client, mais qui, dans la suggestion à une grande puissance, n'est pas irréversible, alors il y aura toujours la déstabilisation. Et donc Napoléon en vient à croire que l'heure est à des empires plus larges, et lorsque ces empires auront trouvé leur assise territoriale, lorsqu'il n'y aura plus ces petits États qui ne sont pas viables, qui n'ont pas les moyens, parce que voilà, le principe napoléonien, c'est que il y a un cynisme, hein, voilà, les États qui ne sont pas en mesure de se défendre eux-mêmes n'ont pas droit à l'existence. Mais lorsque ces grains de sable qui troublent voilà, la carte de l'Europe auront disparu, ma foi, on pourra vivre d'autant plus en paix que le modèle français, hein, propose un modèle de civilisation, l'empire des lois, un certain art de vivre, enfin voilà, le développement raisonné de l'industrie, du commerce, etc. Et on estime que voilà, les élites françaises en sont convaincues. La France régénérée par 1789, purgée de ses passions révolutionnaires grâce à la stabilisation napoléonienne, elle a proposé à l'Europe, sans doute au monde, un modèle stabilisateur. Mais il y a les autres. Hein, et donc la faute est rejetée du côté des autres, et au premier chef, hein, évidemment, l'Angleterre. Mais pour Napoléon, en fait, ça s'explique par une usurpation qui s'est produite au cours du 18e siècle, que les contemporains avaient mal perçu, le fait que les rapports de force avait été bouleversé en fait par la position dominante que les Britanniques se sont acquises sur les mers et aux Indes. Et en fait, c'est pour lui le problème de l'Europe, il naît aux Indes. Le fait que dans la seconde moitié du 18e siècle, les Britanniques, enfin, par le biais de la Compagnie des Indes, mais avec des liens très forts avec la couronne, voilà, ça fausse les rapports de force. Ça menace d'asservissement économique et maritime les États d'Europe. Et donc, pour revenir à un équilibre, il faut qu'il y ait une très grande puissance en Europe qui soit en mesure de contrebalancer la puissance mondiale que sont devenues les îles britanniques.
Et est-ce que pour vous, cette tension avec l'Angleterre, cette tension, cette guerre avec l'Angleterre, elle se double aussi, c'est ce que vous dites dans le livre, c'est-à-dire que le niveau de ruralité, du poids de la vie rurale en France est fondamental, est beaucoup plus fort qu'en Angleterre, qui a déjà entamé sa mue industrielle. Et que, justement, vous dites qu'il y a une incompréhension, enfin, Napoléon dit, au 18e, n'a pas vu l'usurpation faite par l'Angleterre qui, via l'Inde, prend un contrôle qu'elle ne devrait pas prendre. Mais c'est aussi un autre modèle qui se met en place face à un modèle raisonnablement agrarien, ou en tout cas obsédé par la production agricole.
Oui, non, parce que Napoléon veut dépasser les Anglais dans leur domaine d'excellence. Et donc, le blocus par lequel les marchandises anglaises, hein, sont interdites, eh bien, doit donner les conditions de développement des industries françaises leur permettre de se développer sans la concurrence britannique. Le rapport, hein, les, pour l'instant, les Britanniques hein, vendent des produits de meilleure qualité à moindre prix. En fait, ça, voilà, ça tue les entrepreneurs, enfin les entrepreneurs français. Donc le blocus, c'est une arme économique, une arme de guerre, mais c'est aussi un moyen de développer sous cloche l'industrie française, hein, que ce soit en Normandie ou ailleurs, en les protégeant des mécaniques anglaises, mais pour faire aussi bien, pour que la France ait autant de broches, de machines à vapeur. Et il y a eu toute une politique, en fait, mais là encore, qui n'est pas nouvelle, en fait, c'est hérité du directoire, qui est d'incitation, d'encouragement à l'industrie nationale. Hein, il y a des... C'est pas les ancêtres des expositions universelles, c'est parce qu'elles sont pas universelles, justement, c'est les produits de l'industrie française, mais les produits de l'industrie sont très fortement encouragés. Et Napoléon, dans ses nombreux déplacements, on les a suivis dans l'infographie, ne manque pas dans chaque ville dans laquelle ils se rend à rendre visite à tel manufacturier, à le décorer de la Légion d'honneur, à lui expliquer que c'est comme ça qu'on fait de la bonne guerre, de la bonne besogne contre l'anglais. Donc, il y a cette fascination, pour voilà, une puissance qui doit être aussi une puissance industrielle, parce que aussi Napoléon est très très mercantiliste. Enfin bon, voilà, il y a ça. L'agriculture, oui, mais il n'y a pas le terme d'agrarien pour Napoléon. Non, il n'a pas cette pensée qui sera développée sous la Restauration. D'ailleurs, par certains de ses anciens préfets, quand une ville neuve, Bargemont, etc., qui vante une espèce de modèle russe agrarien. Bon, non, c'est pas non. Napoléon, par rapport aux campagnes, il veut deux choses. Hein, déjà, il veut ne pas tourmenter les paysans, ne pas les inquiéter. Voilà, il estime que le monde paysan a été beaucoup sollicité, beaucoup brutalisé pendant la Révolution. Par exemple, hein, le maître, hein, les poids et mesures, Napoléon ne va pas va un peu endormir leur application. Il ne s'agit pas de tourmenter les paysans. Il ne va pas toucher à des sujets épineux. Par exemple, la question des communaux, des biens communaux. Il en reste. On pourrait penser que dans la logique, parce que beaucoup ont vu en Napoléon le triomphe finalement, le bras armé de la bourgeoisie, mais Napoléon dit non, les communaux, on ne va pas y toucher, les terres collectives, tout ça, parce que ça, c'est des machines à créer des déstabilisations, etc. Il le fera juste à la fin, au compte-gouttes en 1813, parce qu'il a besoin d'argent. On va autoriser les communes à vendre, etc. Mais donc, le souci, c'est que les campagnes soient paisibles. Bon, vous allez me dire qu'elle est levée d'homme. C'est déjà voilà, un tracas, mais n'en ajoutons pas. Donc, ne pas trop bouger, sauf sur quelques secteurs dont il a besoin pour sa guerre économique. Et Napoléon, il est fasciné par la betterave à sucre, hein, comme produit de substitution au sucre de canne. Il aimerait aussi avoir la laine de mouton mérino, etc. Un peu féru d'agronomie, mais sur quelques secteurs. Mais pour le reste, il fait confiance aux paysans.
Alors, vous évoquez justement la lecture de Napoléon comme bras armé de la bourgeoisie. Ça aussi, c'est une grande question qui traverse l'historiographie napoléonienne, qui est l'articulation finalement entre trois éléments, que sont évidemment la noblesse issue de l'Ancien Régime, la bourgeoisie, mais qui elle-même n'est pas un bloc homogène, dans la mesure où, on va dire, il y a d'un côté la bourgeoisie qui, entre guillemets, a fait la Révolution, si on a cette lecture-là de la Révolution, mais il y a aussi des gens qui... Et ça, il y en a aussi un dans l'entourage de Napoléon et dans les... On n'a pas évoqué, mais le livre est rythmé par des portraits de grandes figures, d'ailleurs pas toutes favorables à Napoléon, mais qui sont des figures importantes autour du régime ou de l'époque. Il y a aussi des figures de gens qui ont émergé parce que la République a fait que, et le moment historique, a fait que des gens issus de milieux extrêmement modestes ont connu des destins extrêmement forts. Et l'articulation de ces trois choses est au cœur de la question aussi de l'Empire, enfin du moment napoléonien, parce qu'on ne sait pas véritablement s'il y a une volonté de Napoléon de les unifier pour ce que la France est une, ou il passe son temps à jouer de l'un contre l'autre pour essayer d'en tirer le meilleur accommodement pour lui.
Alors, institutionnellement, le système napoléonien est une machine, en quelque sorte, à secréter, en tout cas à consolider, à officialiser un ordre politique qui est calqué sur l'ordre social, qui repose sur la propriété foncière. En fait, ça s'explique par le système électoral qui est mis en place sous le consulat. Il y a deux étapes, mais le principe est le même dans les deux cas. Simplement, il va être perfectionné à partir de 1802. C'est un système par filtre qui permet, en fait, en quelque sorte, vous avez le corps électoral, les 100% qui vont élire 10% d'entre eux, qui vont composer en fait un collège d'électeurs pour de nouveau choisir 10% d'entre eux, et ainsi de suite. Parmi lesquels le pouvoir va choisir ses représentants. Et donc il y a ce filtrage, et ce filtrage il repose en fait sur la propriété foncière, et c'est le système des notables. Alors il y a des notables de plusieurs envergures, et le système napoléonien c'est un système en fait de listes, hein, c'est un gouvernement par liste. Quand vous regardez les archives, c'est un plaisir de travailler sur la période napoléonienne parce que les archives sont très belles. Et quand on veut travailler sur des individus, la prosopographie, il y a ce souci de les connaître, la liste des 100 plus imposés, la liste des 300, la liste des 30, avec des mini-biographies sociales pour chacun, de manière à identifier la puissance foncière d'un homme et puis en même temps ce qu'il a fait pendant la Révolution. Ça, c'est les notables, ceux qui comptent. Au niveau de leur département. Et comme le critère, c'est un critère de propriété foncière, il n'y a plus le critère de naissance, encore que la propriété foncière, la noblesse terrienne reste à de beaux jours, elle est surreprésentée. Par exemple, en Gironde, ça reste considérable. Mais en théorie, on regarde en fait le montant d'imposition que chacun paye, et c'est ça qui classe les gens, qui leur donne une importance. Et c'est modulé à la marge par la moralité. C'est notable en fait, le préfet, quand il fait ses fiches, il y a quelques cas où de mœurs douteuses, ou qui vraiment pendant la Révolution a choqué ses. Ses voisins, ses contemporains, et n'a pas eu l'intelligence politique de se laver, de se faire oublier, etc. Voilà, quelques-uns peuvent être, quelques brebis galeuses, un mouton noir peuvent être écartés. Mais donc c'est ce principe, vraiment un ordre qui repose sur les notables, et ça suffit pas, parce que Napoléon va construire un système. Le terme de méritocratique, de toute façon, il est anachronique, mais qui repose sur le mérite et le dévouement par la Légion d'honneur et ensuite la noblesse d'Empire, qui va permettre en fait d'identifier, et ça c'est personnel, c'est pas des choses héréditaires, des individualités qui se sont illustrées par le service de l'État, pour le service de l'État, et qui vont avoir droit à une forme de considération sociale, une forme d'estime, et sur lesquelles croit pouvoir s'appuyer Napoléon. Ces légionnaires, ou ces nobles d'Empire, pendant le cas de la noblesse d'Empire, ça peuvent être des familles anciennement roturières d'avant 1789, ou des nobles, mais qui sont ce qu'on appelle alors des nobles refaits. C'est-à-dire que voilà, ils sont. La France ne compte plus de nobles, la noblesse a disparu. Mais bon, on sait que malgré tout, dans l'estime sociale, etc., ils n'ont pas disparu malgré tout, mais on va les refaire en leur donnant un titre officiel, mais un titre d'empire qui est censé faire oublier le passé, les clivages hein, qui en résultaient.
Ah. Vous avez évoqué, pour que nous concluions cet entretien, mais vous avez évoqué au tout début le fait que parmi les apports justement des parutions du bicentenaire, il y avait l'internationalisation justement des lectures de la période napoléonienne. Qu'est-ce qui, selon vous, quels sont les domaines dans lesquels la recherche a probablement des travaux fructueux ou des renouvellements à produire sur cette période-là? Est-ce que c'est du côté de l'histoire sociale? Est-ce que c'est du côté ou d'un autre côté? Est-ce qu'il y a des béances encore ou des renouvellements à produire?
Alors, en tout cas, il faut rien de s'interdire parce que souvent, les historiens, en fait, c'était interdit de faire, les historiens de l'Empire, c'était interdit de faire de l'histoire sociale au prétexte que la période napoléonienne, l'épisode napoléonien, selon voilà, une expression consacrée, ça ne dure que 15 ans, 20 ans au maximum, et ce n'est pas une temporalité suffisamment large pour observer un petit peu les reconfigurations du social. Mais voilà, des historiens, des historiennes hein, ont franchi allègrement ces barrières. Je pense par exemple à la noblesse d'Empire, Nathalie Petitot, qui après envisage hein, ces nobles d'Empire et leur descendance hein, sur une longue période, sur un long 19e siècle, etc. Donc on doit travailler, faire de l'histoire sociale ou interroger l'État, faire de l'histoire sociale de l'État. Ça, c'est un domaine sur lequel voilà, j'ai beaucoup travaillé, comprendre un petit peu bah, comment l'État napoléonien a happé, a attiré à lui des individus en fait venus d'origines très très diverses et qui ont créé une forme de nouvel bureau de bureaucratie à son service. Donc on peut faire de l'histoire sociale et d'autant plus que la passion de notre époque, hein, de l'historiographie de notre époque pour ce qu'on appelle les prosopographies. Prosopographie, c'est un nom un peu savant pour désigner la manière d'identifier une cohorte sociale, c'est-à-dire tout, par exemple, tous les receveurs des finances et d'en faire une biographie sociale collective. Eh bien, ça progresse. Hein. Il y a une grande entreprise qui avait été lancée dans les années 70, qui est faire en fait l'histoire des, enfin, les fiches prosopographiques des grands notables. On les a tous fait. Enfin, donc mettre en fiche, c'est les acteurs sociaux de l'Empire, ça s'est fait. L'histoire napoléonienne, elle bouge beaucoup. Au niveau de la guerre, et un peu la boucle par laquelle on a commencé, parce que l'histoire napoléonienne maintenant se tourne avec beaucoup de fraîcheur, d'envie sur l'histoire du combat et des combattants, hein. C'est-à-dire hein, descendre un petit peu de l'échelle stratégique, voilà, sur son nuage de stratège, et voir ce que la guerre fait aux hommes, comment ils la vivent, ils souffrent dans leur corps, et ça, c'est depuis quelques années. Ça veut pas dire qu'on ne le faisait pas avant, mais ça devient central. La question des blessés, la question des retours de guerre, la question des traumas rentre en compte. La question aussi des violences illégitimes, parce que il y a les guerres napoléoniennes ne se limitent pas à Austerlitz, Siena, à des batailles rangées. Voilà, il y a aussi des sales guerres. Des guerres douloureuses qui sont émaillées d'exactions contre les populations civiles, avec des troupes qui sont un peu en déshérence hein, en Calabre, en Espagne, au Portugal, en Russie. Et donc voilà, il y a des expériences douloureuses militaires civiles qui marquent, hein, qui sont marquantes et dont on essaye de faire l'histoire avec toutes les incertitudes. Parce que c'est aussi l'historien, bah, il dépend de ses sources, il dépend aussi des tabous d'une société. Et par définition, les violences illégitimes, ce sont des violences qui sont souvent indicibles, dont on ne se vante pas. Et dont les victimes elles-mêmes ont du mal à témoigner, à mettre des mots. Et donc, voilà, il y a des historiens, des historiennes hein, qui affrontent la question. L'histoire napoléonienne, dans l'internationalisation, elle s'est aussi ouverte vraiment à de grands horizons. On a fait une histoire mondiale des guerres napoléoniennes. L'Europe, c'est déjà grand. Mais les interférences des rapports de force hein, font que voilà, il y a des choses passionnantes qui se passent aux marges de l'Europe, ne serait-ce que dans le Caucase, ne serait-ce que dans les rapports hein, de Napoléon face à Alger, et puis la redistribution des rapports de force que j'ai évoqué avec la question de l'Inde, les rapports avec bien sûr les États-Unis, et puis le grand ébranlement qui est donné aux colonies espagnoles. Hein, tout ça, c'est des choses qui sont beaucoup travaillées désormais et qui donnent une richesse nouvelle. Et puis, il y a des fronts qui sont pionniers, qui méritent d'être travaillés. La question des femmes sous Napoléon, alors front pionnier, non, parce que ça fait depuis longtemps que voilà, on réfléchit à la condition féminine à l'aune du code civil, mais essayer un peu de comprendre davantage la génération napoléonienne, parce que pour la question des femmes, en fait, on a une génération de femmes qui ont grandi avec les libertés relatives que leur octroyait la Révolution. Le code civil intervient, mais c'est pas un code qui fait changer les mentalités ni les rapports dans le couple. En fait, les effets du code civil, ils vont se répercuter sur la génération suivante ou les générations suivantes. Donc, en fait, la situation des femmes sous Napoléon est en transition. Donc, c'est assez passionnant parce que il y a vraiment des régimes, temporalités qui sont différentes. Pour vous dire aussi, dans les populations oubliées, personnellement, là, je travaille beaucoup maintenant sur les enfants dans les guerres napoléoniennes, pour dépasser en fait l'image un peu classique, un peu lycée, un peu la guerre des Michards, vous voyez, les enfants du siècle, hein, la génération de Quinet, de Musset, de Victor Hugo, etc., qui ont grandi dans les lycées au son du tambour et qui se sentent trop jeunes dans un monde trop vieux, etc. En fait, l'impact des guerres napoléoniennes et plus largement du dérangement de la Révolution, il se sent en fait de façon beaucoup plus profonde dans le corps social. Et donc, pour l'historien, c'est toujours un défi, parce que quand on dit on travaille sur Napoléon, bon, voilà, il y a encore des choses nouvelles à faire, à voir. Bah, bien sûr, les archives de la secrétaire d'État, c'est les archives pour les initiés AF4, etc. Bon, elles ont été lues par peut-être 10 000 historiens. Donc, autant dire que c'est un terrain qui est très arpenté. Mais se donner pour de voir les guerres napoléoniennes, par exemple, à hauteur d'enfant, il y a des choses étonnantes et troublantes hein, qui se mettent en place. Et en même temps, ça montre une forme de circulation. Et ça, c'est peut-être, si c'est l'heure, ce sera peut-être le mot de la fin. Longtemps, la période napoléonienne, ça a été comme une espèce d'archipel ou même une île. Fermée sur elle-même, une espèce de huis clos historiographique. Je parlais tout à l'heure d'un public des études napoléoniennes, c'est-à-dire une histoire qui est droit dans ses bottes, qui a ses certitudes, qui a ses domaines d'excellence, qui est très narratif, très biographique, et qui était un petit peu en position un peu isolationniste même par rapport, ne serait-ce qu'à la Révolution ou ce qui vient après. Et ce qui s'est passé depuis 20, 30 ans, c'est que des questionnements qui sont élaborés par des historiens d'autres périodes, comment fonctionne l'État, les guerres mondiales du XXe siècle, c'est quoi la brutalisation ou ce genre de choses, vont être injectés dans l'histoire napoléonienne pour provoquer un sursaut interprétatif. Parce que souvent, c'est ce qui manquait, en fait. C'était des problématiques, des questionnements qui permettent d'aller un peu plus loin. Alors, il faut être très prudent, réfléchir, tempérer, filtrer. Mais voilà, quelques idées fortes qui permettent de relire à nouveau frais les archives napoléoniennes et pour proposer au public une histoire napoléonienne en mouvement, parce que ça serait quand même le comble pour l'histoire napoléonienne, voilà, qui, et d'un Napoléon sans cesse en, en mouvement, de rester un petit peu immobile sur ses certitudes. Non, il faut la faire bouger. Et l'infographie, pour revenir sur ce point, bah, c'est le support, le, voilà, un support très, très adéquat pour montrer ses, toutes ces dynamiques qui l'animent.
En tout cas, merci beaucoup, Aurélien Lignereux, pour cette synthèse très vivante et très dynamique, et les perspectives que vous ouvrez. Merci à vous.
Merci.